Leçon 1. Animé d'un autre esprit. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Nombre 14, verset 24. Cette étude a pour finalité de vous conduire à adopter un autre esprit. L'unique condition requise pour vous positionner sur la trajectoire de votre destinée est éveiller en vous la créativité, l'innovation et l'invention. Qu'est-ce qu'un autre esprit? Un autre esprit est une mentalité différente, une autre manière de voir la vie. En quoi Caleb était-il animé d'un autre esprit? Caleb avait une manière d'appréhender, entre parenthèses, concevoir, les géants qui étaient quasiment différentes de la conception des autres explorateurs, entre parenthèses, des autres espions, missionnés par Moïse. Nombre 13, versets 26 à 33 dit: il vint trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Il leur rendit compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Néguev. Les Hittites, les Yéboussiens et les Amoréens tirent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit: allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui avaient accompagné disaient: nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant: le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consomme ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avons l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisons. Première question. Selon vous, pourquoi tous les 12 espions n'avaient pas vu les géants, entre parenthèses les défis, de la même manière, malgré le fait qu'ils avaient le même Dieu et la même promesse divine? La réponse est qu'ils n'avaient pas le même esprit. Deuxième question. Comment 10 des 12 espions missionnés ont-ils vu ou dépeint les géants? Se référer à Nombre 13, 26 à 33. Et la réponse est: comme des défis qu'ils devraient eux-mêmes surmonter, ils se sont comparés aux géants. Question 3. Comment Josué et Caleb ont-ils vu les géants? Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse, Il lui dit, « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Nombre 13, verset 30. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Non seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Nombre 14, versets 6 à 9. La réponse à la question « Comment Josué et Caleb ont-ils vu les géants ?» La réponse est « Ils les ont vus comme inférieurs à l'Éternel. » Le thème, c'est un autre esprit. Comment David a-t-il vu le géant Goliath? 1 Samuel 17, versets 45 à 49. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. La référence, c'est 1 Samuel 17, 45 à 49. Qu'est-ce qu'on observe? On voit que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. Mais quant à lui, David, il courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Animé d'un autre esprit. Question. Comment l'Afrique voit-elle ses géants? Comme des défis? Comme des challenges? Dans votre cas personnel, qu'est-ce qui peut symboliser les géants qui pourraient vous empêcher d'entrer dans votre destinée? Une autre question. Comment voyez-vous ces géants? Vous êtes animé d'un autre esprit si vous voyez vos géants, vos défis, tels que Dieu les voit. La majorité des Africains sont animés d'un esprit, entre parenthèses, une conception qui les emmène à faire encore et encore la prière suivante. Seigneur, change notre situation. L'exaucement de Dieu à cette prière est conditionné par le changement de mentalité. Je change ta perception et tu changeras toi-même ta situation. Notez ceci. Pour changer la situation d'un peuple, on doit d'abord changer sa mentalité, sa perception, sa manière de voir. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Juges 6, verset 12. L'ange n'a pas cherché à changer la situation de Gédéon. Lorsqu'il entra en contact avec lui, il a plutôt cherché à changer sa perception de Dieu, de lui-même et de sa situation. Et Gédéon est parvenu à changer sa situation après cette étape. Nota bene, on doit changer sa perception avant de pouvoir changer sa situation. Sa perception de Dieu. Pour lui, la présence de Dieu n'est palpable, entre parenthèses concrète, dans la vie d'une personne que lorsque tout va bien chez elle. La personne est aisée financièrement, matériellement, la personne est heureuse, etc. Ça relève de Dieu avec cette personne. Lorsque toutes ces choses font défaut, c'est le signe que Dieu a abandonné cette personne. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Juges 6, verset 13. Deuxième point, sa perception de lui-même. Premier point, sa perception de Dieu doit changer dans le cas de Gédéon et de plusieurs d'entre nous. Deuxième point, sa perception de lui-même. Pour lui, Dieu n'utilise que les personnes issues de bonnes familles, de milieux aisés. En parenthèse, Juges 6, 15 dit, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Troisième perception a changé, sa perception de la situation. Pour lui, la victoire dans une bataille n'est assurée que si on est doté d'une armée forte en nombre. Or, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Israël se glorifierait contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. » Juges 7, verset 2. Pourquoi Dieu a-t-il diminué l'effectif de l'armée de 22 000 hommes à 300 soldats? Le lendemain matin, Yérubal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes ses troupes et il établit leur camp près de Hen-Harod. L'armée des Madianites était campée plus au nord dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Moria. L'Éternel dit à Gédéon, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point d'en trembler? Qu'il s'éloigne du mont Galak et rentre chez lui. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent et il en restait 10 000. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et là je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent et l'Éternel lui dit, D'un côté, tous ceux qui lapent l'eau avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté, ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper. Et tous les autres s'agenouillent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites, en vous donnant la victoire sur eux, que tous les autres rentrent chez eux. Juges 7, verset 1 à 6.